Alors, bienvenue à tous. Vous êtes invités à chercher dans vos Bibles, dans Hébreux chapitre 11, les versets 20 à 22. Hébreux chapitre 11, les versets 20 à 22. Il y a quelques semaines, on m'a invité à la colo de donner une petite prédication aux jeunes, et le thème, c'était la mort. Alors, il faut savoir, on avait 115 jeunes entre l'âge de 7 ans et de 17 ans, et de parler de la mort, ce n'est pas très facile à faire avec ces personnes. Mais on a fait cela. On a parlé effectivement l'idée que nous avons au niveau de la mort, c'est de rester fidèle jusqu'à la mort. Et là, nous avons donc une récompense qui nous attend. Et comme c'était le voyage du pèlerin, ce voyage qui a lieu jusqu'au arrive à ce qu'on appelle la cité céleste. Alors, évidemment, à la fin, on doit traverser une rivière pour arriver à la cité céleste. Et cette rivière, évidemment, c'est la mort. Et les jeunes, ils ont bien répondu à cela. Ils ont compris parce que tout le monde connaît quand même quelqu'un qui est décédé, un grand-parent ou peut-être quelqu'un, une connaissance de la famille ou même des membres de la famille. Et cette idée d'avoir la foi jusqu'à la fin est importante. Donc, dans Hébreux chapitre 11, on a parlé beaucoup de la foi de créer, de savoir que le monde a été créé. On a parlé de la foi de Abel qui a donné un sacrifice qui était meilleur. On a la foi de Noé qui a construit une arche et donc qui a été sauvé. La foi d'Abraham qui a cru même quand il n'a pas reçu les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler de la mort. Okay? Et ici, l'idée de la foi, c'est d'aller jusqu'au bout, avec cette assurance que Dieu est là, qu'il est présent, et que en Christ Jésus, donc nous avons cette vie qui nous attend. Et cela se voit, cette foi jusqu'à la mort, se voit dans la vie de trois personnes différentes, c'est-à-dire la personne d'Isaac, de Jacob, et puis après Joseph. Et donc, ceux qui aiment l'Ancien Testament, vous allez beaucoup aimer cette étude. Si vous n'aimez pas l'Ancien Testament, alors vous allez faire semblant de l'aimer. Je lis, donc 11, 20 à 22. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun de ses fils, des fils de Joseph, et qui se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël, et qui donna les ordres au sujet de ses ossements. Donc, juste que vous compreniez ici, il est en train de parler de ces exemples de foi. Et là, nous avons trois personnes qui sont soulignées pour la foi qu'ils avaient juste en face de la mort. Juste en face de la mort. Mon ami Max Donner, quand il parle de la mort dans l'une de ses études, il cite Woody Allen qui dit « Ce n'est pas que j'ai peur de mourir, c'est que je ne veux pas être présent quand cela m'arrive. » Et je crois que vous avez entendu cela, mais c'est vraiment cette idée de comment est-ce qu'on fait avec tout cela qui est la mort et tout. Bon, on commence avec Isaac. Isaac. Isaac qui veut dire donc tout simplement rire. C'est ça ce qui veut dire son nom. Vous savez pourquoi on dit rire? Parce que il semble qu'à l'époque, quand on riait comme ça. Isaac, zac, 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 zac. Isaac, zac, 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 zac. C'est comme ça que les gens riaient. Aujourd'hui, on rit évidemment autrement. Et nous nous souvenons que Isaac, ce rire, c'est un rappel de deux choses. Que Sarah a ri quand elle n'a pas cru qu'elle allait avoir un enfant, quand les visiteurs sont venus. Mais aussi de la joie que Dieu a amenée dans cette maison en donnant un enfant, Isaac, à l'âge avancé de 90 ans et puis de 100 ans. Et Isaac, donc, va avoir des fils jumeaux avec sa femme qui s'appelait Rebecca. Et ses fils jumeaux, c'est Ésaü et Jacob. Nous savons que Ésaü était le plus aimé des deux fils de Jacob. Et que Rebecca aimait, d'Isaac. Et que Rebecca aimait plus donc son fils Jacob. Et vous vous souvenez que Jacob a volé la bénédiction de son papa aveugle. C'est assez intéressant dans l'histoire. En tout cas, je trouve que Isaac dit que je vais mourir et je veux donner la bénédiction. Et la bénédiction, c'est la bénédiction qui lui, il avait reçue d'Abraham. C'est-à-dire que il y aurait une nation qui allait venir, une grande descendance, un pays, et puis finalement un Messie. Et donc Isaac dit, je vais mourir, je veux bénir les enfants, et Rebecca et Jacob travaillent ensemble pour voler la bénédiction. Ce qui est aussi intéressant, il dit, je vais mourir. Vous savez qu'Isaac a vécu encore 40 ans avant de mourir. Mais l'idée, c'est qu'il avait quand même le sentiment qu'il allait se passer. Et après cette tromperie, après avoir volé la bénédiction, il y aura une rencontre de nouveau avec entre Jacob et Isaac. Et voici ce que Jacob va recevoir comme bénédiction. C'est dans Genèse, chapitre 28, les versets 3 et 4. « Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie, afin que tu deviennes une foule de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme immigrant et que Dieu a donné à Abraham. » Et il est essentiel de savoir, de rappeler que Isaac n'était qu'immigrant au Canaan. C'est-à-dire, il vivait sous tente. Mais il dit à Jacob que lui et sa descendance allaient recevoir ce territoire. Isaac n'a rien reçu. Qu'est-ce qu'il a? Il a ce qu'on appelle le grotte de Macpéla. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte? Il y a les ossements d'Abraham et de Sarah. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est la seule chose qu'il a. Mais sa conviction, en pensant qu'il va mourir, c'est quoi? Que Jacob, Dieu, il va garder cette promesse. Et il est fidèle jusqu'au bout de cela. Bon, tournons la page, on arrive à Jacob. Assez intéressant, Jacob, son nom sera changé en Israël, n'est-ce pas? Et puis, il deviendra le père de 12 fils, qui sont les 12 tribus d'Israël. Très important de savoir cela dans sa vie. Jacob, la bénédiction que Jacob a donnée à ses 12 fils est un peu compliquée. Et dans notre texte, nous le savons, mais en réalité, il y a deux bénédictions que dans Hébreux chapitre 11 qui sont mises ensemble. La première bénédiction, c'est que son fils Joseph est son préféré. Et vous vous souvenez qu'il a été séparé de Joseph pendant des années. Joseph va en Égypte après Jacob qui pense que Joseph est mort. Et qu'est-ce qui se passe? Il apprend qu'il est toujours vivant quand ils ont dû immigrer en Égypte. Et juste avant de mourir, donc qu'est-ce qu'il fait Jacob? Il appelle Joseph à venir avec ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Okay? Bon, c'est un tout petit peu compliqué, mais il les fait venir. Il faut savoir que Jacob va mourir très bientôt. C'est pas dans 40 ans que cela va. Et il veut donner une bénédiction. Et donc, Éphraïm et Manassé viennent devant lui. Okay? Et Joseph les positionne pour que Manassé puisse être sous la main droite et recevoir la grande bénédiction et que Éphraïm soit sous la main gauche. Okay? Donc, il fait comme ça. Et que fait Jacob? Il va croiser les mains et donner la bénédiction comme cela. C'est-à-dire, c'est Éphraïm qui va recevoir la plus grande bénédiction et Manassé une bénédiction mineure. Okay? Joseph, il est dans tous ses états. Il dit, mais non, mais papa, il faut faire comme ça. Et bref, juste pour dire qu'il donne cette bénédiction. Et c'est de cela qu'on parle ici, parce qu'il parle du fait que Éphraïm et Manassé, tous les deux, vont devenir de grands peuples. Puis l'autre chose qui est là, c'est que sous son lit, donc, il va appeler tout le monde pour une bénédiction. Et au lieu de rester dans son lit, il va se lever, probablement prendre son bâton et se mettre debout ou essayer de se mettre debout parce qu'il veut montrer que c'est un moment solennel. Et dans Genèse chapitre 49, vous pouvez lire les 12 bénédictions et puis même malédictions de ces 12 enfants. Alors, pourquoi je vous mentionne cela? C'est parce que il faut savoir quand ils descendent en Égypte, vous savez combien de personnes ils sont en total avec les 12 frères et leur famille? Ils ne sont que 72 personnes. C'est tout. Ils sont pas plus que cela. Mais quand Jacob, à la fin de sa vie, en Égypte, donne la bénédiction à ses fils, il est donc comme s'ils étaient des peuples, comme s'ils étaient des nations. Il parle de leur territoire qui est vaste. Et donc, juste avant de mourir, il va parler de leur avenir qui est glorieux. Et j'aimerais juste vous dire, Jacob, il a quoi comme territoire? Il n'a rien. Il a une grotte de Macpéla avec des ossements dedans. C'est tout ce qu'il a. Mais qu'est-ce qu'il dit à ses fils? Il dit à ses fils que vous allez être bénis par Dieu. Vous voyez, jusqu'au bout, ils sont fidèles. C'est dans Genèse chapitre 48, le verset 22. « Voici que je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera revenir dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus que ta frère à tes frères. » Donc, il dit cela à Joseph. « Celle que j'ai mise de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. » Donc, n'entends bien, Jacob est mort tout de suite après. Et ses enfants ont porté son cadavre jusqu'au pays de Canaan. C'est pas Israël, hein? Jusqu'au pays de Canaan. Et il sera placé dans la grotte de Macpéla, à côté d'Abraham, de Sarah, Isaac, Rebecca et Léa. Okay? Bon. Isaac, fidèle jusqu'à la mort, okay, il dit à Jacob, ta descendance va recevoir ce territoire et va être un peuple nombreux. Jacob dit à ses fils, ils sont que 72, hein, ils sont pas très nombreux, il dit, il y aura un territoire pour vous. Joseph, maintenant, 110 ans, il commence à se sentir un tout petit peu vers la fin de sa vie. Je comprends, 110 ans, ça, on va le ressentir. Ce grand dirigeant hébreu des Égyptiens a appelé sa famille. Et voici ce qu'il dit, Genèse chapitre 50, les versets 24 à 25. « Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous à coup sûr et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac, à Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, « Dieu interviendra pour vous à coup sûr, et vous fera remonter mes os loin d'ici. » Bon, Joseph a vécu presque 90 ans de ses 110 ans en captivité ou en Égypte. Okay? Il est devenu un grand dirigeant. Mais il savait, il était sûr que ce que Dieu avait dit était vrai. Et quand il est en train de mourir, il ne dit pas, écoutez, ça c'est une histoire qui n'est pas véridique, je peux le dire. Abraham, ça n'a pas marché pour lui. Isaac, ça n'a pas marché pour lui. Jacob, ça n'a pas marché pour lui. Non, qu'est-ce que Joseph dit à la fin de sa vie? Dieu fera à coup sûr, il dit, il va vous donner ce territoire. Qu'est-ce que Joseph a? Il n'a rien. Quel lien a-t-il avec Canaan? Zéro. Il est en Égypte maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il croit aux promesses de Dieu à la fin de sa vie. Et il dit, et un jour, vous allez remonter. Et quand vous remontez, vous allez prendre mes ossements avec vous. Vous allez les amener de nouveau au Canaan. Je sais pas si vous avez remarqué. Ce que Joseph demande est différent que Jacob. Jacob dit, prenez mon cadavre. Okay? C'est-à-dire, je vais mourir et tout de suite, on va remonter. Donc, il sera embaumé comme font les Égyptiens de l'époque. Mais notons bien ce que Joseph dit. Joseph dit, prends mes os. Vous avez vu cela? Mes ossements. C'est-à-dire, il sait que c'est éloigné, que ce moment va venir. Mais quand ce moment est là, vous allez prendre mes ossements et vous l'avez amené dans ce pays qui est là. Et donc, j'aimerais juste que vous voyez que ces trois hommes, Isaac, Jacob et Joseph, à la fin de leur course, ils ont mis toute leur espérance en Dieu. Et la foi va jusqu'au bout. La foi va jusqu'au bout. Il va jusqu'à la mort et reste fidèle. Et puis, nous apprenons, je crois, trois choses concernant la foi. La première chose, c'est que la foi regarde vers un avenir qui est glorieux. Quand Jacob a béni ses fils, il a dit, je vous annoncerai les choses qui arrivera dans les jours à venir. Et comment Jacob a-t-il pu avoir tellement de certitude que Dieu allait vraiment faire ces choses? C'est parce que pendant toute sa vie, il a marché avec Dieu. Il avait vu les portes du ciel à Bethel. Il avait été béni dans le pays de son beau-père. Il avait vu les anges marcher avec lui quand il a quitté son beau-père. Il avait lutté pendant la nuit avec Dieu. Il avait été réconcilié avec son frère. Il a vu Dieu à l'œuvre pendant toute sa vie. Et donc, c'est pour cela que il est tellement important pour nous de vivre fidèlement aujourd'hui. Parce que quand nous arrivons à la mort, il n'y a pas un switch qui dit « Ok, maintenant j'ai la foi ». Si vous n'avez pas vécu avec foi, avec Dieu, pendant les jours de votre vie, il n'y a pas un switch à la fin. Il y a l'incertitude, il y a la peur, il y a la crainte. Okay? Mais si vous marchez avec Dieu chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Bon, à la fin, vous pouvez avoir cette foi dans un avenir qui est là. Et tout cela a donné à Jacob de la confiance. Et quand nous marchons avec Dieu tous les jours, nous grandissons en confiance. Pourquoi? Parce qu'on voit que Dieu a été à l'œuvre. Nous voyons qu'il nous a rassurés. Nous voyons qu'il nous a amenés plus près de lui. Le passé de Jacob lui a donné la puissance de faire face à la mort. Et notre vie peut nous donner la force pour faire face à la mort. Dans un mot, lui, il croyait que Dieu gardait ses promesses. Mais pourquoi? Parce qu'il avait vu Dieu qui gardait les promesses jusqu'à là. Donc, j'aime bien ce passage de « c'est pour nous hein. ». Et puis, notre avenir est beaucoup plus glorieux que ce qu'il savait. Lui, il savait rien. Il pensait à un pays et à des ossements. Par exemple, Jacob, son idée, c'est mon cadavre dans une grotte. Ça, c'est son avenir. Okay? Joseph, c'est mes ossements dans une grotte. Ben, quel est votre avenir? Ben, c'est beaucoup plus glorieux. C'est beaucoup plus glorieux. Le Dieu de toute grâce, c'est 1 Pierre 5:10. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous formera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est la promesse. Okay? Vous avez entendu? Il vous formera, il vous affirmera, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Ça, c'est la première chose. Donc, la foi regarde vers un avenir glorieux. Rapidement, la foi dit les paroles de la foi quand on arrive à la mort. Et en lisant un livre d'un enseignant qui s'appelle Ravi Zacharias, il est un croyant d'origine indienne, il a dit que Sartre, sur son lit de mort, a renoncé à son athéisme et que Simone de Beauvoir a dit il a perdu la tête. Il dit que Camus, l'auteur de L'étranger, a été tué dans un accident de voiture, mais qu'il était en pleine discussion avec un prêtre pour recevoir le baptême. Il dit que Voltaire s'est converti sur son lit de mort, que Oscar Wilde, auteur et dramaturge anglais, a appelé un prêtre pour entendre sa conversion, pour recevoir l'extrême onction. Ce sont des gens qui se sont tournés vers Dieu dans le désespoir. C'est dans le désespoir qu'ils se sont tournés de Dieu. Et il y a des gens qui font comme ça. Mais nous comprenons pourquoi. Mais nous tournons vers lui avec espérance. C'est pas dans notre désespoir que nous tournons vers lui. C'est dans notre espérance. Et pourquoi nous le faisons? C'est parce que la vie est importante aux yeux de Dieu. Et nous savons qu'il est celui qui agit. La vraie vie, c'est de vivre avec Dieu aujourd'hui et pour l'éternité. Et donc, nous tournons vers lui maintenant, dans une difficulté que nous faisons. Nous tournons vers lui. Dans la joie, nous tournons vers lui. À la mort, nous tournons vers lui. Et nous savons qu'il y a, ce qu'on lit dans la Bible, un poids éternel de gloire qui est au-delà de toute souffrance, au-delà de toute douleur, au-delà de nos tourments, une gloire plus grande que nos larmes, une gloire plus grande que nos tristesses. Et en ce jour, dit Jean, nous verrons Jésus comme il est et nous serons changés. Nous allons ressembler à lui. Ça, c'est notre espérance. Et ça, c'est les paroles de foi que nous avons à la fin. C'est que nous arrivons jusqu'au bout, nous disons, je crois. Et je sais ce que Dieu a réservé pour nous. Jusqu'à maintenant dans ma vie, j'ai vu plusieurs et de plus en plus de personnes, des chrétiens, qui sont allés jusqu'au bout dans la fidélité. Et c'est parce qu'ils ont marché avec lui aujourd'hui. Mais en faisant comme cela, ils cherchent ce que Dieu veut pour eux, un pays meilleur, une communion avec lui. Donc, on a ces différentes choses, mais une dernière chose peut-être à souligner, c'est que la foi voit ce que les autres ne peuvent pas voir. Et ça se voit dans notre texte. La foi voit ce que les autres ne peuvent pas voir. On appelle ça les yeux de la foi. Et je crois qu'on peut dire Isaac, Jacob et Joseph avaient des yeux de la foi. Jacob est mort des centaines de kilomètres de chez lui, mais il savait que ses fils deviendraient une nation bénie de Dieu. Il avait toujours les yeux de la foi. Joseph, avant de mourir, il dit, vous allez prendre mes ossements. Dieu vous visitera, dit-il, dans Genèse chapitre 50, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Et peu après sa mort, une autre dynastie allait reprendre le pouvoir et allait mettre en esclavage tous les Israélites. Et le nouveau pharaon allait oublier tout ce que Joseph a fait. Et pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, Israël sera des esclaves en Égypte. Mais la foi voit ce que les autres ne peuvent pas voir. Et une nuit, 400 ans après le décès de Joseph, pendant une nuit, il y a des gens qui vont chercher ces ossements. Ces hommes qui vont porter ces ossements en dehors de l'Égypte pour traverser la mer Rouge, pour aller vers le pays promis. Et ces Israélites joyeux portent ce cercueil, portent ces ossements. Ils respectent les souhaits de Joseph. Ils portent ces os au pays de Canaan. Et donc, ils voient. Donc, on se prépare. Okay? Les yeux de la foi, on vit avec lui tous les jours avec une gloire qui est devant nous. Et votre foi, est-ce qu'elle regarde vers l'avenir, vers comment Dieu va vous utiliser pour accomplir son travail dans le monde? Je vais vous dire un truc, ok? Quand vous jouez au tennis, et Stéphanie adore regarder Roger jouer au tennis. Vous n'êtes pas au courant, mais j'ai invité Roger à venir manger chez moi. Il n'a même pas répondu à mes mails. Je trouvais que quand même j'avais invité toute la famille, mais vous savez que ce n'est pas celui qui marque le plus de points qui gagne. Est-ce que vous êtes au courant de cela au tennis? C'est pas celui qui marque le plus de points. Celui qui gagne, c'est celui qui gagne le dernier point. Celui qui gagne le dernier point, il gagne le match. Vous êtes au courant de ça? Vous ne pouvez pas gagner le match si vous ne vous gagnez pas le dernier point. Et vous savez quoi? La foi est faite pour que nous gagnions le dernier point. Pour qu'on reste jusqu'au bout fidèle à Dieu et qu'on gagne ce point et on reçoit la récompense que Dieu nous a promis. C'est cela que nous avons. C'est une foi qui est commune à nous tous. Quand ceux qui ne connaissent pas encore le Christ sont confrontés par la mort, ils n'ont pas de l'assurance. Ils ont que la peur. Ils ont que... Peut-être ils vont serrer la main de la mort, je sais pas. Ils disent c'est la fin de une souffrance, mais ils n'ont pas une espérance claire. Et nous pouvons avoir peur, nous pouvons avoir des incertitudes, mais nous avons la foi qu'en gagnant le dernier point, nous gagnons le match. Et c'est ceci que nous gardons avec nous, de savoir que la mort n'est pas la fin, mais que nous avons donc ce qui est promis. Bon, pourquoi nous savons ça? Si eux, ils ont pu être fidèles parce que Dieu a donné une promesse, comment savons-nous que nous pouvons être fidèles? Bon, il y a un dimanche matin. Il y a un ange qui annonce une bonne nouvelle. Il y a une pierre qui est roulée. Il y a un tombeau vide. Il y a des cicatrices. Il y a des témoins. Il y a le Seigneur ressuscité. Et c'est cela que nous avons. Toutes ces différentes choses. Et tout cela révèle que la mort ne gagne pas, que nous pouvons garder notre foi. La corruption n'est pas notre destinée. C'est lui le seul, Jésus, qui prouve que nous sommes créés à vivre, que la mort n'est pas naturelle, que la poussière n'a pas le dernier mot et que les cendres ne sont pas notre avenir. Notre foi est dans un Christ ressuscité qui reviendra. Il gardera ses promesses. Il amènera avec lui tous ceux qui sont morts en lui. Et nous le verrons et nous serons comme lui. Ça, c'est notre foi. Et donc, nous regardons les histoires d'Isaac, les histoires de Jacob et de Joseph. Et nous disons, avec tellement peu de choses, ils sont restés fidèles. Et nous regardons ce que Dieu nous a fait en Jésus et ce qu'il nous a révélé. Et cela nous donne vraiment cette possibilité de gagner le dernier point et de remporter le match.